Et je suis très heureuse d'accueillir Roxane de la Sablonnière. On s'était pas vu depuis plusieurs semaines, là. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène. Oui, ça fait très longtemps, en effet. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui.
Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison, donc pour une chronique de psychologie sociale. Et aujourd'hui, votre sujet, c'est s'épanouir dans ses études et défis contemporains.
Oui, ça me tentait aujourd'hui, avec la rentrée scolaire, d'aborder la situation des étudiants et étudiantes, mais aussi dans un contexte où tout change, puis leur réalité change, puis la nôtre aussi comme professeur ou comme institution. Donc, de voir quelles sont les nouvelles réalités.
Bonne idée. Vous avez préparé cette chronique en collaboration avec Rose-Marie Guérard, étudiante au doctorat en psychologie de l'Université de Montréal, et France Landry, psychologue et chercheuse.
Oui. Puis alors, nous avons eu l'idée aussi là, avec des collègues de l'Université de Montréal qui travaillent au service à la vie étudiante. Parfait. C'est eux qui nous ont donné cette idée.
Alors, je rappelle aux gens qui ne vous connaissent pas que vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et bien plus encore. Alors, Roxane, parlez-nous de la génération étudiante d'aujourd'hui.
Donc, au cours des dernières décennies, on remarque qu'il y a plusieurs nouvelles générations qui sont définies, pas toutes les 20 ou 25 années comme avant, mais plus souvent. Il y a un sociologue, Jacques Hamel, qui dit qu'il y a des nouveaux termes qui se réfèrent à une nouvelle génération quasiment à chaque année. Donc, on parle et on l'entend souvent, les millénario.
Oui, on entend beaucoup milléniaux. Mais c'est millénario, c'est plus juste.
C'est ça, exact. Ouais. C'est plus juste, mais c'est plus difficile à prononcer. On entend parler de la génération 2.0, la génération alpha, la génération Z. Mais ce qu'ils ont en commun, toutes ces générations, c'est qu'ils seraient qualifiés de, un, homo numericus, ça veut dire une génération d'individus qui baignent dans la technologie et les réseaux sociaux depuis leur tout jeune âge, contrairement à vous et moi. Et puis aussi une génération qui a une volonté de l'individualisation, qui se reflète dans leurs attitudes envers les institutions comme l'université, où, par exemple, les étudiants désirent élaborer leur propre trajectoire personnelle unique. Donc, ils veulent prioriser leur organisation individuelle avant l'organisation plus sociale ou collective. Donc, cette génération a grandi dans un contexte social bien particulier comparativement à celui que moi j'ai grandi, par exemple. Et puis, on se pose des questions. Comment ces différences influencent-elles la réussite scolaire des étudiants et étudiantes? Et puis, quelles pourraient être les relations avec les professeurs ou au sens plus large, là, avec les institutions? Donc,
alors, d'après vos recherches, qu'est-ce qui a changé vraiment dans le monde de l'éducation?
Bien, premièrement, la relation avec les professeurs, puis je dis professeurs, mais c'est au sens large, c'est institution aussi, les gens qui représentent l'université, par exemple, ou les collèges, ça peut être plus épineux, cette relation. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont mentionné qu'il y a une activité qui se fait là, de plus en plus, ça s'appelle l'activité du sac de sable, sandbag, ça veut dire de malmener quelqu'un, qui consiste pour les étudiants de vérifier sur le web les informations qui sont données par un professeur et à les corriger en temps réel, pendant le cours, devant tout le monde. On constate aussi des difficultés dans la relation, dans la communication. Par exemple, un professeur pourrait ne pas comprendre pourquoi l'étudiant ou l'étudiante devant lui travaille presque à plein temps pendant ses études et de ce fait met une année ou parfois même deux années de plus à terminer son diplôme, ou bien pourquoi il a un ordinateur devant lui ou devant elle, même lorsqu'il est dans une relation où c'est seulement une diade là, du 1-1. Donc, ça peut être très difficile à comprendre pour les professeurs, mais aussi pour les étudiants dans leur perspective qui est bien à eux. Donc, on constate aujourd'hui que les étudiants définissent leurs identités comme étant étudiants de manière différente que les générations précédentes.
Est-ce que la montée de l'individualisme dont vous parliez en début de chronique aurait un lien avec l'identité étudiante?
Tout à fait. Ça fait en sorte que l'identité étudiante est plus diffuse. Par diffuse, on veut dire que la personne étudiante n'est pas seulement étudiante, elle est aussi une personne qui est une travailleuse, une sportive, une personne engagée dans plusieurs autres projets en même temps ou plusieurs sphères de sa vie. Donc, elle a plusieurs identités simultanées, Puis l'identité étudiante n'est pas la seule qui la définit. On peut supposer que cette identité peut être influencée aussi par cette tendance individualiste de notre société. Donc, on vit dans une société qui est néolibérale, dans laquelle l'individu met au premier plan ses désirs, ses besoins, ses aspirations. Donc, cette tendance, on la constate aussi, on l'observe chez les étudiants et les étudiantes parce qu'ils veulent chacun et chacune créer leur propre trajectoire personnelle, leur propre soi étudiant unique. Alors qu'avant, on parlait plus d'un groupe. Les étudiants vont à leur cours, ouais, font leur programme.
Une communauté,
font leur programme en 3 ans. Aujourd'hui, on entend aussi l'expression les études à la carte. Donc, on s'attend à ce que les étudiants peuvent choisir plus leur cours ou leur programme ou les changements. Donc, ça demande énormément de flexibilité de la part des institutions et des professeurs aussi. Donc, on pourrait donner quelques autres exemples. Ils vont privilégier le télétravail plutôt que la présence sur le campus. Ils veulent prolonger leur parcours, avoir un parcours qui est sur mesure aussi par rapport à leurs propres besoins individuels ou bien, par exemple, ne pas participer à des rencontres de laboratoire ou des conférences qui ne les concernent pas directement. Donc, ils veulent optimiser leur temps parce qu'ils sont engagés dans plein d'autres activités en même temps.
Ils n'ont pas rien que ça à faire.
Exactement. Donc, dans ce contexte, ça peut être difficile de créer une identité étudiante qui est claire, qui est solide, puis de créer aussi un sentiment d'appartenance à la communauté parce que, comme on le disait plus tôt, c'est l'individu unique qui prime sur l'individu collectif, soit d'être étudiant. Donc, tout ça fait en sorte qu'il peut y avoir des difficultés.
Est-ce que vous avez des exemples de préoccupations étudiantes, Roxane?
Oui, on vit dans un monde, puis on en a parlé dans plusieurs chroniques, mais on vit dans un monde d'incertitude, un monde qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de changements, hein, on en a parlé.
Un monde pressé.
Un monde pressé, mais un monde où on peut se sentir facilement impuissant ou impuissante. Il y a une guerre en Ukraine, il y a des famines, il y a eu la pandémie, on a été isolés, il y a des changements climatiques, il y a eu plein de feux de forêt. Donc, il y a beaucoup de préoccupations sociales que les jeunes d'aujourd'hui ont. Je vous donne l'exemple de mon étudiante Rosemarie Guérard, avec qui j'ai préparé cette chronique, qui est étudiante au doctorat, qui remarque que plusieurs de ses pairs peuvent venir en questionner la valeur du sacrifice de plusieurs années que peuvent représenter les études universitaires. Donc, les étudiants se demandent pourquoi se former pour son futur alors que le futur est incertain. De quoi aura l'air le monde en 5-10 ans? Puis, est-ce que mes études auront vraiment aidé à faire ce monde un monde meilleur? Donc, il y a beaucoup de questionnements de la part des étudiants. Puis, ils vivent aussi de l'impuissance face à ce sentiment d'urgence d'agir. Puis, ils essaient de se trouver des moyens. Ils essaient de se trouver des moyens dans ce contexte-là.
Alors, pardon, est-ce que vous avez quelques pistes pour renforcer l'épanouissement des étudiants à l'université? Les étudiants et étudiantes.
Oui, en effet, il y a une chercheure qui s'appelle Laurie Schreiner qui a développé le concept en anglais « thriving », qui veut dire « prospère, florissant ou épanouissement ». Donc, nous, on le nomme « épanouissement scolaire ». Ça veut dire d'être complètement engagé intellectuellement, socialement et émotionnellement dans l'expérience de l'éducation. Si vous voulez, en terminant, Hélène, je pourrais vous donner quelques pistes de solutions plus concrètes que moi, je pourrais vous proposer, parce que ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce milieu-là.
Avec grand plaisir.
D'accord. Donc, premièrement, je suggérerais de bien s'informer, puis peut-être d'aller lire les travaux de Mme Laurie Schreiner. Là, c'est très bien détaillé, puis on pourra y revenir dans une prochaine chronique. Mais mes 3 suggestions concrètes, c'est premièrement, s'assurer que la formation universitaire ou collégiale, là, j'aborde plus l'université, mais j'inclus là, tous les milieux scolaires, que la formation soit cohérente avec les enjeux sociaux actuels. Par exemple, si on organise dans un cours des travaux d'équipe, bien, ça serait le fun que les étudiants choisissent des thèmes qu'ils ont à cœur, qu'ils ont l'impression de faire des changements dans leur milieu ou dans la vie des autres ou dans leur propre vie, puis d'avoir un sentiment de faire une différence. Deuxièmement, de trouver des façons que l'enseignement nous enseigne des compétences qui vont au-delà de ce qui peut être trouvé sur le web. Par exemple, dans le milieu universitaire, on parle beaucoup de pensée critique, et c'est quelque chose qui s'enseigne par la pratique, par le travail, par l'autocritique aussi. Donc, il y a plusieurs façons qui peuvent être faites ou élaborées pour que les étudiants sentent que c'est important de venir en classe puis d'avoir cette relation avec le professeur ou l'institution aussi, afin de développer ces compétences-là qu'ils ne peuvent pas obtenir sur le web. Puis finalement, de vraiment créer un espace pour l'ouverture et le dialogue, de prendre le temps de les écouter, de s'assurer qu'ils nous écoutent aussi, qu'ils écoutent pourquoi on fait les choses d'une telle façon, même si ça ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent, mais qu'il y ait ce dialogue qui est sain, qui est ouvert aussi, puis qui est porté sur créer des façons de mieux travailler ensemble.
Je sens qu'on va pouvoir en reparler parce que c'est un vaste sujet, vaste programme également. Bonne rentrée tout le monde, bonne rentrée aussi Roxane de La Sablonnière. Merci beaucoup pour cette chronique et on se retrouve en octobre.
Merci, au revoir.